Mais d'abord, Luc Lavoie, 14h06. Mon cher Luc, bonjour.
Salut, Bernard.
Alors, on va commencer d'abord par la politique américaine parce que l'acte d'accusation qui pourrait mener à l'éventuelle destitution de Donald Trump, l'acte d'accusation va être voté aujourd'hui par la Chambre des représentants.
Oui, on s'attend à un vote vers 15h cet après-midi à la Chambre des représentants. Le débat a été lancé il y a plus ou moins 2 heures. Je le suis de temps en temps. Et évidemment, on attendait de voir ce que Nancy Pelosi, la leader des démocrates, allait dire. Et ça se résume comme ceci. Elle a dit que Trump était un danger évident et immédiat pour les États-Unis et il doit partir. Elle dit le président des États-Unis a incité à cette insurrection, cette rébellion armée. Il doit partir. Il est un danger évident et immédiat contre la nation que nous aimons.
Bon, OK.
Ah, oh là 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 là. Alors, le vote, c'est que vers 15h cet après-midi.
Après, ça s'en va au Sénat, hein?
Oui, bien, je voulais souligner avant qu'il y a 6 républicains qui ont formellement annoncé qu'ils allaient voter pour la destitution avec les démocrates.
Dont la fille de Dick Cheney, l'ancien vice-président de George Bush II, là.
Voilà. Alors, Liz Cheney,
ouais.
qui est membre de la Chambre des représentants pour le Wyoming, qui est la fille de Dick Cheney et qui est une vedette du mouvement conservateur. Elle a été pendant un certain nombre d'années analyste à Fox News. Mm. Donc, elle est très influente. Elle est numéro 2. Elle est comme juste derrière dans la hiérarchie Mme Pelosi. Alors ça a beaucoup frappé l'imaginaire. Maintenant, ça va s'en aller au Sénat. Et au Sénat, c'est là que le procès, parce que c'est ça la procédure, là, c'est la mise en accusation. On va voter sur la mise en accusation. On s'en va en procès au Sénat. Un procès qui sera présidé par le juge en chef de la Cour suprême, comme la dernière fois.
Mm-hmm.
Mais le monsieur McConnell, le leader, Mitch McConnell.
Oui. Alors, Mitch McConnell, excuse-moi.
Le leader, ça a coupé, c'est de ma faute.
Oui, oui.
J'ai pesé sur le mauvais bouton.
Alors, le leader républicain au Sénat,
oui. Oui, et qui est un vieux renard, hein. Faut jamais oublier ça. On l'a beaucoup attaqué dans les dernières années, mais il y en a vu d'autres. Hein.
Oui.
Et McConnell laisse courir depuis hier l'idée qu'il est en faveur de la destitution parce qu'il pense que ça va enfin purger le Parti républicain du trompisme, mais il l'a jamais dit formellement, mais il y a personne qui l'a démenti non plus. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a annoncé ce matin que le procès, donc, au Sénat, ne débutera pas cette semaine. Il ne débutera pas avant l'assermentation de Joe Biden. Alors ça veut dire un certain nombre de choses.
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ben ça veut dire d'abord une affaire évidente, ça va être un procès d'un ex-président à qui on pourrait retirer ses privilèges d'ex-président, mais ça veut aussi dire que c'est le jour de la sermentation que à cause de la victoire en Géorgie, les démocrates deviennent majoritaires au Sénat. Maintenant le Sénat pour qu'il y ait totalement destitution doit voter aux 2/3. Là, les démocrates vont être à peu près à 51-49, enfin.
En fait, ça va être 50-50, mais...
50-50
c'est
avec le vote déterminant. Ouais,
c'est ça.
La vice-présidente.
Voilà.
Harris.
Fait que ça va prendre 16 républicains, 16 sénateurs républicains, en plus des 50 sénateurs démocrates pour éventuellement le destituer. Mais
exactement.
Le destituer...
Ça va en prendre,
post-mortem.
Destituer post-mortem, mais c'est pas rien de le destituer post-mortem, parce que ceci inclut que le million de dollars qui va au président, aux ex-présidents des États-Unis pour leurs dépenses de voyage, c'est fini. L'argent pour la bibliothèque présidentielle qu'on lègue au président quand il quitte la Maison-Blanche, c'est-à-dire environ 40 millions, c'est fini.
Ça veut-tu dire que sa protection rapprochée du service secret?
Il y en a plus. Il n'y en a plus. Alors, ça veut dire des choses quand même très importantes pour un ex-président. Ça va aussi, si tu veux, ce procès-là va devenir le procès du trompisme. Et ça va devenir l'enquête publique, même si c'est pas ça, concernant les événements du 6 janvier sur le Capitole.
Mais
c'est ça que McConnell est en train de mettre en scène à l'heure actuelle.
Ça va devenir aussi un petit peu, Luc, le procès du Parti républicain sous Trump.
Exactement.
Ça va obliger les sénateurs républicains à choisir leur camp, même ceux qui étaient avec Trump, de décider est-ce que je reste fidèle à l'héritage de Trump ou est-ce que je me dissocie de Trump.
Et là, ça va être intéressant de voir ce que... Bon, McConnell, on voit à peu près où il s'en va.
Ben oui.
Marco Rubio, encore avant-hier, était devant les caméras de télévision pour dire que les démocrates faisaient de la basse partisanerie. Rubio, qui a été constamment humilié par Trump pendant la campagne pour l'investiture républicaine en 2016, il s'est conduit comme un petit chien-chien là, qu'il suivait un peu partout. Qu'est-ce qu'il va faire, Rubio? Ted Cruz, les ambitions présidentielles sont bien connues. Qu'est-ce qu'il va faire, Ted Cruz?
Il a été pathétique, Ted Cruz. Il a été
incroyable.
Pathétique.
Incroyable. Vraiment, c'est le gars qui s'est calé le plus. Ah. Et là, évidemment, Bernard, ça m'amène à te parler de Washington, cette ville que tu connais, que je connais, est en train de se transformer en un camp militaire. OK?
Ah oui.
Ce matin, le commandant de la National Guard, la Garde nationale, a annoncé qu'il y aurait un peu plus de 20 000 membres de la Garde nationale, un peu plus que 20 000 membres de la Garde nationale pour protéger Washington dans les jours à venir, n'est-ce pas?
Ouais.
Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des manifs lundi, mardi, puis mercredi, ben c'est la prestation de serment. Alors là, c'est à ce moment-là qu'on peut craindre le pire. Et ce matin, un peu plus tôt dans l'émission, on parlait avec le criminologue d'origine québécoise, M. Lemieux, et on se demandait s'il y avait un leader dans cette affaire-là.
Parce qu'on
dit que les groupes d'extrême droite sont en train de se coordonner, pas nécessairement de se coaliser, là, mais ils sont en train de se coordonner. Eh bien, je l'ai trouvé, celui dont parlait M. Lemieux. C'est un gars qui s'appelle Ali Alexander, qui est un organisateur quasiment professionnel de manif. Et là où c'est assez particulier, c'est que la veille de la fameuse prise d'assaut du Capitole, ce gars-là, M. Alexander, qui organisait cette affaire-là, a pu visiter les lieux pour savoir par quelle porte entrer pour aller défoncer quoi.
Ben voyons donc.
Grâce à qui? Grâce à un groupe de membres de la Chambre des représentants. Donc, trois membres de la Chambre des représentants, Andy Biggs de l'Arizona, Mo Brooks de l'Alabama et Paul Gosar de l'Arizona. Alors, ces gens-là ont été comme ses guides. C'est incroyable, non?
Mais là, comment c'est ça? Ils siègent encore comme représentants à la Chambre?
Je le sais, mais c'est sûr. Mais là,
c'est incroyable.
Alors, moi, j'en reviens pas de cela, là. C'est parce qu'il y a des gens là-dedans qui visaient directement l'assassinat de Nancy Pelosi et l'assassinat de Mike Pence. Ce sont des parlementaires élus qui ont servi de guide à l'organisateur pour qu'il aille prendre des notes par quel couloir dois-je tourner, à gauche, à droite.
Mais ils vont devoir répondre de leurs actes, eux autres. Est-ce que la Chambre pourrait, d'une certaine manière,
les sanctionner ou elle pourrait,
j'espère.
J'espère. Ben, en fait, c'est pas clair la procédure, mais c'est évident que c'est dans l'air qu'on veut intervenir. Ça a quand même pas de bon sens. Puis en plus, il y a une membre de la Chambre des représentants du Texas qui, elle, est arrivée au Capitole portant une arme. Elle l'a laissée un peu à côté. Puis elle est rentrée dans la foule en criant les mêmes slogans qu'eux. C'était une parlementaire, ça aussi. Alors, c'est pouf. Je veux dire, c'est totalement explosif. Le FBI, ce qu'il fait très rarement, a tenu une conférence de presse hier, et l'agressivité dans le ton adopté par les porte-paroles du FBI quand il parlait des gens qui allaient être arrêtés, puis des gens qui étaient encore sous enquête, puis de ceux qui allaient payer le prix pour tout ça, c'était « oh boy », ça commence à ressembler à un affrontement entre deux bandes de loups, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Enfin, on va surveiller ça de près.
D'accord.
Veux-tu qu'on parle de COVID rapidement?
Ça va être bien court.
2071 nouveaux cas, 33 décès supplémentaires au Québec. Ce qui n'est pas mauvais, hein, parce qu'on voit une tendance à la baisse. Maintenant, comme on nous avait averti que ce serait le cas, dans les hôpitaux, ben là, ça se détériore parce que, comme nous l'a souvent expliqué François Marquis, d'abord, tu as la contamination, puis après, tu as les premiers symptômes, puis après, tu as l'hospitalisation.
Puis après, pour certains, tu as les soins intensifs, puis voilà, malheureusement, après, tu as la mort pour certains. Ouais.
Alors, c'est ce qu'on est en train de vivre. 229 aux soins intensifs, 1516 personnes hospitalisées. Maintenant, du bon côté des choses, le Québec a administré hier 7855 doses de vaccins pour un total de 107 365, 1,2% de la population ont reçu au moins une dose. Et le Québec vient de recevoir 40 000 doses supplémentaires aujourd'hui, Donc, on va continuer la vaccination au même rythme. Juste un mot sur l'Ontario. L'Ontario a recensé 2961 nouveaux cas de coronavirus et le nombre d'hospitalisations demeure très élevé maintenant. La même chose, on est en train d'être témoin de la même chose en Ontario, à savoir que ça baisse. T'sais, ça baisse pas radicalement, mais ça baisse. Est-ce que c'est le couvre-feu? Est-ce qu'on peut attribuer ça aux nouvelles directives en Ontario, au couvre-feu au Québec? Je le sais pas. On a appris depuis le début de la pandémie qu'il faut laisser passer le temps avant de porter des jugements. Mais à l'heure actuelle, j'aime mieux dire c'est une bonne nouvelle plutôt que de dire que c'en est une mauvaise.
Mais il faut les prendre. Luc, à un moment donné, c'est tellement lourd.
Puis je suis très content du rythme de la vaccination. Évidemment, un peu déçu de l'approvisionnement, là, mais peut-être que je suis impatient, mais je suis très content de voir avec quel professionnalisme on exécute la campagne de vaccination. La semaine passée, on était tous un peu nerveux parce que ça s'était décollé pas mal lentement. Ben là, monsieur, on est vraiment dans le peloton de tête pour la campagne de vaccination presque à l'échelle du monde.
Luc Lavoie.
Il y a Israël derrière, là. On est derrière Israël, mais quand même.
Luc Lavoie, mesdames et messieurs, est dans un état d'esprit positif et je pense que c'est probablement
le hockey.
Le hockey. La game du Canadien le rend de bonne humeur. Écoute, on est tellement...
Bernard, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Je veux juste savoir si t'en prie. Qu'est-ce qu'on mange pour souper?
Du hockey!
Oui, monsieur! OK, avec un bon hot dog du forum, là, du Centre Bell, OK. Soir, mesdames et messieurs, on mange du hockey, puis on garde un œil sur CNN pour savoir si le pays n'est pas en feu.
Bon, ben Luc, on compte sur toi et on se reparle, on va se reparler hockey demain, OK?
Avec plaisir.
Bye. OK, on s'arrête. Et après la pause, on va parler justement de cette augmentation des cas là, aux soins intensifs. On va parler avec un chef d'unité de soins intensifs. Restez à l'écoute.